RTL Info.
Le journal David Sanchez. Bonsoir. Les truites et autres ombres qui nagent dans le secteur suisse du Doubs, en aval du barrage du Châtelot, sont pour l'instant hors de danger. Mais les pêcheurs attendent la pluie avec impatience. Le service informatique de l'entité neuchâteloise, le SIEN, va reprendre celui de la ville de Neuchâtel. Cette opération coûtera 7,5 millions de francs au canton. Serge Pelletier et son nouvel assistant Clint Thornton. C'est actuellement la paire gagnante qui dirige le HCC. Avant de recevoir Winterthur ce soir, le club chaudefonnier occupe la tête du classement de Swiss League de hockey sur glace. Cette nuit, les services météo nous promettent un temps sec sur toute la région. Le lac des Brenets à sec, des images largement répandues dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pourtant, à quelques kilomètres en aval, la rivière coule. Le débit est certes modeste, 1100 litres par seconde, mais suffisant pour les poissons et la faune aquatique. La situation n'en est pas moins préoccupante et les pêcheurs regardent le ciel avec inquiétude. Thierry Christen, président de la Fédération des pêcheurs neuchâtelois.
Ici, sur notre parcours, jusqu'à maintenant, pas trop d'impact. On est préservé, on a de la chance, on a encore de l'eau. Malheureusement, au-dessus, pour nos amis français, c'est catastrophique, puisqu'on peut dire que tout est mort. Maintenant, nous, on espère ici qu'avec l'eau qui vienne, qui est attendue pour cet hiver et cet automne, que ça règle la problématique.
Côté français, vous dites tout est mort. Il faudrait combien de temps, si la sécheresse durait et que ça devenait vraiment critique, aux poissons, à la faune, pour recoloniser la rivière?
Ah ben là, je pense que ce qui est mort, ça va mettre des années, des dizaines d'années pour recoloniser la rivière.
Des propos recueillis par Claire Viget. Thierry Christen en profite pour souligner que si le Doubs coule encore en aval du barrage du Châtelot, ce n'est pas grâce à l'ouvrage qui est à sec. Et retrouvez également un aperçu vidéo du sujet sur rtn.ch. Le service informatique du canton de Neuchâtel s'agrandit. L'État va récupérer le centre électronique de gestion de la ville de Neuchâtel pour créer une nouvelle entité composée de 165 personnes. La nouvelle organisation, qui portera encore le nom de SIEN, veut répondre aux défis informatiques pour les 20 prochaines années. Cette opération devrait coûter 7,51 millions de francs au canton de Neuchâtel. Selon le Conseil d'État, ce coût sera compensé par la reprise des mandats du CEG ainsi que la facturation des prestations à la ville de Neuchâtel. Pour Fabio Bongiovanni, conseiller communal en charge des finances, il s'agit d'une décision logique et la mutation devrait être aisée.
Pour la ville de Neuchâtel, ça va changer dans son organisation interne. C'est une nouvelle structure cantonale aussi qui tient en compte les spécificités de la ville de Neuchâtel et des communes. Donc du changement, certes, mais pour améliorer un service et puis pour sécuriser l'informatique cantonale.
On parle d'un montant de 7,5 millions de francs. Ça, en fait, c'est quand même un argent bienvenu en ce moment dans les caisses de Neuchâtel.
Les 7,5 millions, c'est le montant qui a été valorisé par un expert externe de la valeur des applications et des infrastructures du CEG. À l'avenir, c'est un montant qui sera déduit sur 5 ans de la future facture que nous adressera le SIEN pour les prestations qui seront fournies à la ville de Neuchâtel.
Vous avez l'impression que vous récupérerez quand même un petit peu d'argent à la fin ou pas du tout?
Je crois qu'avec le travail de cet expert externe, on a une valorisation juste qui a été faite du CEG et donc c'est naturel que lorsque l'on remet un certain nombre d'actifs, on soit aussi payé pour cet échange.
Des propos recueillis par Yann Esler. Le conseil général de la ville de Neuchâtel et le grand conseil doivent encore approuver cette nouvelle entité entre novembre et décembre. Sous-Avin peut reprendre ses activités. Le tribunal cantonal neuchâtelois a suspendu hier la faillite de l'entreprise basée à Serrières. Elle avait été prononcée le 8 octobre. Une nouvelle décision de justice est attendue d'ici la fin de l'année. Jazz en pays neuchâtelois, le dernier numéro de la nouvelle revue neuchâteloise est consacré à l'histoire du jazz dans le canton, ainsi qu'aux nombreux orchestres qui ont joué dans la région depuis 1935 à nos jours. Cette nouvelle édition s'intéresse aussi aux lieux et à quelques-unes des grandes figures du jazz neuchâtelois. Dans les années 60-70, le jazz était avant tout une musique de danse, de plaisir et de divertissement. Le genre a donc marqué durablement la vie culturelle neuchâteloise, comme nous le rappelle Jean-Jacques Barlet, l'un des rédacteurs de cette édition et ancien animateur à RTN de l'émission Jazz Cocktail.
C'est vrai qu'il y avait à l'époque des balles.
les bals qui se donnaient en général à la rotonde. Il y avait des pensionnats de jeunes filles qui venaient en car, et donc supervisées bien sûr, parce qu'il y avait de la musique et la possibilité de danser. Les institutions avec des jeunes filles, ben, c'était des jeunes filles américaines pour la plupart qui venaient parce qu'il y avait des moyens financiers, et les parents larguaient les filles dans la région neuchâteloise, et puis ça attirait forcément du monde masculin, puis on faisait venir des musiciens neuchâtelois et aussi des vedettes des États-Unis. Et il y a eu pas mal de balles. Comme ça, c'était devenu quelque chose qui était à la mode. Et ça prenait bien. Ça prenait bien. Il y avait une audience. Il y avait, évidemment, le jazz de l'époque était relativement facile à comprendre, dans la mesure où on reconnaissait les mélodies.
Le 138e numéro de la Nouvelle Revue neuchâteloise paraîtra le 25 octobre. Une fête y sera consacrée au Théâtre de Colombier afin de marquer aussi le 35e anniversaire de la publication. C'est un beau succès pour l'ensemble des communes et des villes suisses. L'initiative jurassienne sur les offices de poste a été acceptée. Le texte a reçu l'approbation du Conseil des États, suivi de celle de la Commission des Transports du National, mardi par 15 voix contre 4 et 2 abstentions. Le passage devant le Conseil national n'est donc pas nécessaire. Une des 5 demandes stipulées dans le texte concerne notamment la possibilité que devraient avoir les citoyens de s'opposer à la fermeture d'un office de poste. Le député socialiste au Parlement jurassien, à l'origine de l'initiative, Raphaël Tchocki.
La demande qui est faite pour nous, c'est que les citoyens doivent pouvoir s'opposer avec une demande munie d'un nombre de signatures égal à celui d'une initiative communale. C'est quelque chose que je trouve très très raisonnable dans un pays démocratique. C'est la voix du peuple qui doit être entendue, notamment quand en face de nous, on a une entreprise fédérale, donc en main de la Confédération. On espère que les hauts dirigeants de la Poste seront attentifs à ces demandes et puis feront le nécessaire pour réaliser ces demandes légitimes que de nombreuses personnes, citoyens, mais également, je pense aux employés de la Poste, attendent depuis longtemps. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une vue d'ensemble, c'est une vision. Et puis la vision, elle doit porter sur la création ou le maintien d'un nombre d'emplois dans les régions. Donc je pense à 5, 10, voire 15 ans. On le sait maintenant, hein, on forme des gens pour des métiers qui n'existent peut-être pas encore, où beaucoup de métiers vont évoluer. La Poste doit tenir compte de ces nouveaux métiers et puis des régions pour que tout le monde profite de sa stratégie de diversification.
L'ensemble des demandes de l'initiative devrait être mise en œuvre dans les 2 ans. La lutte contre la fraude aux assurances sociales est un devoir et c'est à cette condition que les citoyens gardent confiance dans le système. Les partisans politiques de la nouvelle loi sur la surveillance des assurés lancent leur campagne à 5 semaines de la votation du 25 novembre. Le comité regroupe des élus du PLR, du PDC, de l'UDC, du PVD et des Verts libéraux. Ce comité rappelle que de 2009 à 2016, les assurances sociales ont fait appel à des détectives pour observer en dernier recours les bénéficiaires sur lesquels pèse un fort soupçon de fraude, mais sans faire de remous. La Cour européenne des droits de l'homme exige une base légale. La loi ne fait que reprendre la pratique. Pourtant, le recours à des détectives fait grincer des dents. Le conseiller national PLR valaisan, Philippe Nantermo.
L'ensemble du droit fait souvent appel à des spécialistes externes à l'administration pour agir. C'est le cas dans toutes les procédures civiles ou pénales d'expertise. Quand vous prenez des empreintes ADN ou des empreintes digitales, très souvent vous passez par des organisations qui sont privées, qui n'ont rien à voir avec l'administration directement. Et puis les détectives privés, eh bien, on a déjà fait appel à eux. Alors dans le droit des assurances sociales depuis des années, hein, c'est une longue pratique, mais on l'applique aussi par exemple dans le droit des étrangers pour lutter contre les mariages blancs. On n'a pas systématiquement engagé des policiers pour faire quelques procédures par année. Ces gens-là sont encadrés par un mandat qui définissent ce qu'ils ont le droit de faire, ce que l'administration leur demande de faire. Ils n'ont pas plus de droits qu'un simple citoyen. En fin de compte, c'est une chimère de croire qu'en Suisse, toute l'exécution du droit se fait systématiquement par des fonctionnaires. Au contraire, on en est très très loin.
Des propos recueillis par Serge Jubin. La nouvelle loi sur la surveillance des assurés combattue par un référendum devrait être validée par le peuple. Le sondage GFS pour la SSR donne le oui à 57% contre 39% de non. Dans l'affaire Khashoggi, le parquet turc recueille des témoignages d'employés du consulat. Le journaliste Jamal Khashoggi est porté disparu depuis début octobre. Il s'était rendu au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. 15 personnes ont été entendues aujourd'hui, comme le rapportent les médias locaux. Des fouilles ont déjà eu lieu ces derniers jours dans les alentours d'Istanbul pour tenter de retrouver le corps du journaliste. La Chine veut lancer une lune artificielle pour éclairer la Terre. Le pays souhaite lancer un satellite dans l'espace d'ici 2020 pour réfléchir la lumière du soleil durant la nuit. Cela permettrait de réaliser des économies d'éclairage. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un média étatique. Le satellite serait équipé d'une pellicule réfléchissante. Il devrait être 8 fois plus lumineux que l'astre lunaire pour illuminer la grande ville de Chengdu.
RTL, 18h10.
Sport. L'infirmerie de Neuchâtel Xamax FCS se vide. Deux jours avant son match contre le FC Bâle, dimanche au Parc Saint-Jacques, le club de football rouge et noir enregistre les retours d'Arbenit Djemaili, d'Ahmed Koné et de William Lepogam. Mustapha Sejmenovic et Arbennor Fethzoulaye se sont remis à courir. Kemal Ademi reprend l'entraînement lundi. La seule mauvaise nouvelle concerne Michael Santana. L'Espagnol s'est plaint de douleurs récurrentes à la cheville alors qu'il s'entraînait normalement depuis quelques jours. Bâle Neuchâtel Xamax FCS, c'est aussi un match à suivre en direct sur RTN dimanche dès 15h45. Le HCC compte bien poursuivre sur sa lancée. Deux jours avant de recevoir Davos en Coupe de Suisse, le club chaudefonnier attend Winterthur ce soir à 19h45 en Swiss League de hockey sur glace. Le HCC reste sur 3 victoires de rang et occupe désormais la tête du championnat. Winterthur n'est que 9e. Serge Pelletier peut évidemment s'octroyer une partie de cette réussite, mais le coach canadien n'est pas le seul à la barre du club. Il est assisté depuis le début de la saison par son compatriote Clint Thornton. Cet ancien gardien de 35 ans évoque avec nous son job au Mélèze.
Je suis homme à tout faire en fait. J'assiste Serge pour tout ce dont il a besoin. J'essaie d'alléger sa charge de travail autant que possible. Une de mes tâches importantes, c'est de prédécouper les vidéos et d'avoir des clips prêts pour que Serge puisse les visionner et décider de ce qu'il est important de montrer à l'équipe. Je gère aussi le banc pour les défenseurs pendant les matchs. Mais vraiment, mon travail consiste à soutenir Serge de toutes les façons dont il a besoin. Serge est le patron, mais il me laisse beaucoup d'espace pour m'exprimer. Nous travaillons bien ensemble. Nous discutons de tous les aspects du jeu, ce qui est intéressant pour moi. J'ai le sentiment que mon job, c'est de le contredire et de trouver les trous dans le plan de jeu, puis d'en parler ouvertement avec lui. Et après, nous nous mettons d'accord et nous savons quel but nous souhaitons atteindre.
Des propos recueillis et traduits par Myriam Widwer, Raphaël Herbe, Jérôme Bonnet, Sacha Volgast et Enzo Guébé, ainsi que Vincenzo Kung, malade, manqueront à l'appel ce soir dans les rangs du HC La Chaux-de-Fonds. HCC Winterthur, c'est en direct sur RTN dès 19h30. Et enfin, il n'y aura plus de cinquième set interminable à Wimbledon. Le 70-68 entre Mahut et Isner en 2010 appartient désormais à la postérité. Les organisateurs du tournoi de tennis londonien ont décidé d'introduire un tie-break au cinquième set. Ce jeu décisif n'interviendra toutefois pas à 6-6, comme c'est le cas à l'US Open, mais à 12-12.
18h13 sur RTN, pourquoi pas 12-12, 15-15. Pourquoi 12-12? Il y a une raison, David Sanchez, vous ne savez pas?
Alors, je ne sais pas si c'est pour laisser place un peu au spectacle
un peu
et au
suspense. Quand même.
Ouais, exactement, ouais. Oui.
On coupe la poire en deux, quoi, simplement.
C'est un peu ça, oui.
Même si c'est plutôt les fraises, hein, je crois, du côté de Wimbledon.
Tout à fait.
Des conditions ensoleillées pour... plus trop ensoleillées en ce moment. Mais des conditions en tout cas avec un ciel dégagé pour cette fin de journée, pour la nuit prochaine. Pas de changement au programme météo de ces prochains jours avec toujours le même schéma. Des bandes brouillard à basse altitude le matin, se dissipant en grande partie en cours de journée. Sinon et au-dessus, du temps ensoleillé et très doux pour la saison. 16 à 18 degrés attendus demain. 15 à 17 sur la région pour dimanche. Ce même type de temps qui est attendu encore jusqu'à mardi au moins, même si les températures devraient baisser quelque peu.